Chapitre 7, le Père à tous. On sonna le garçon pour renouveler les rafraîchissements. À l'exception de Guillaujat, tout le monde était, sinon joyeux, du moins émoustillé par une curiosité très vive. Le bon Geoffrey voulait offrir à monsieur le marquis un petit ambigu fin, genre Pompadour, mais cet austère saladin préféra un boc de bière. Chacun se fit donc servir à sa guise. Le prince demanda un carafon de douceur. « Il fait jour, » dit Saladin d'un ton cassant, quand les portes furent refermées. « Attention, je ne vous ai pas vanté ma marchandise. Au contraire, cette maison-là m'appartient depuis le rez-de-chaussée jusqu'aux mansardes. Et pour ne pas vous faire languir, je vous expliquerai ma situation d'un seul mot. Je suis l'amant heureux de mademoiselle de Chavès. »
« Par exemple, » s'écria Guillaume, « elle est forte. Le duc et la duchesse n'ont pas d'enfants. »
Le fait est, murmura le bon Geoffrey, que je n'ai jamais entendu parler de mademoiselle de Chavès. Comme Errol dit, le maître ne peut pas blouser comme ça du premier coup, il a son idée.
Il a bien plus d'une idée, reprit Saladin, et commençons par établir une chose. C'est que je n'ai plus aucune espèce d'intérêt à vous tromper, puisque je n'attends rien de vous.
C'est juste, fit-on à la ronde. Et le prince ajouta, quel gaillard, écoutez. En conséquence, reprit Saladin, quand je vous dis une chose, c'est qu'elle l'est vraie, à moins que je ne fasse erreur moi-même. Tout homme est sujet à s'égarer. Mais ici, comme il s'agit d'une charmante personne qui m'a confié le soin de son bonheur, comme je suis d'accord avec madame la duchesse et comme madame la duchesse est d'accord avec monsieur le duc, je crois pouvoir vous affirmer, messieurs et mes chers subordonnés, que je ne suis pas le jouet d'un rêve. Mademoiselle de Chavès vous sera présentée demain.
« Elle n'est donc pas à l'hôtel ?» demanda Guillaujat.
« Mon brave, répondit Saladin, ouvrez vos deux oreilles, nous allons nous occuper de vous. Il n'y a pas de sot métier, je suis de cet avis-là, mais votre industrie particulière auprès de cet honnête sauvage qu'on nomme monsieur de Chavès est une gêne pour nous dans le présent et peut devenir un danger dans l'avenir. »
« Écoutez, » fit le prince, qui avait dû habiter l'Angleterre et assister aux séances du Parlement.
« Le maître, dit Guillaujat, ignore sans doute que cette industrie dont on parle a été le trait d'union entre le conseil et monsieur le duc.
« Je n'ignore rien, mon brave, et il y a du temps que je vous suis tous à portée de voir et d'entendre. Les services d'un genre spécial que vous rendez à monsieur de Chavès ont pu entr'ouvrir une porte à nos respectables amis Geoffrey et Comérol.
C'est parfait, je vous en remercie au nom de l'association, mais la porte est grande ouverte et je vous répète que vous nous gênez désormais. Vous marchez en aveugle le long d'une route où notre poule aux œufs d'or a coutume de pondre.
Voyons, voyons, dit Comérol, comprends pas.
Le jeune maître est ami des métaphores, ajouta le bon Geoffrey. Mais le docteur Samuel murmura, moi je crois comprendre.
Le fils de Louis XVII ouvrait des yeux énormes.
Il ne me plaît pas tout à fait, reprit Saladin, de mettre les points sur les i. Je pense que je n'excède pas les bornes de mon autorité en donnant au vicomte Annibal Guillaujat un avis paternel. Toute cette histoire de mademoiselle Saphir est mauvaise pour nous.
« Mademoiselle Saphir ?» répétèrent quelques voix étonnées.
« Qu'est-ce que c'est que cela ?» demanda Comérol.
Le bon Geoffrey caressait Saladin du regard.
« Il monte ses petits coups en perfection, soupira-t-il. Quel joli jeune homme !»
Guillaujat avait tressailli vivement.
« J'ignore qui a pu vous apprendre, commença-t-il. »
« C'est peut-être le roi Louis XIX, » répondit Saladin, qui tendit la main en riant au prince, enchanté de cet honneur.
« En tout cas, au nom du conseil qui m'écoute et qui m'approuve, je vous ordonne d'enrayer. »«
Chacun de nous, » objecta l'Italien, « garde sa liberté d'action pour ses affaires particulières. »«
Non pas, » dit Comérol. Cette doctrine, ajouta Geoffrey, est complètement subversive du grand principe d'association. »
« C'est mon avis, » appuya le docteur Samuel.
« Et le Guillaujat, » ajouta le prince avec zèle, « est expressément chargé de faire le mort. »«
Il ferait le mort au naturel, » reprit Saladin, dont la voix baissa, si par hasard, fantaisie lui venait de désobéir à son chef. Veuillez me regarder, Annibal Guilloja, s'interrompit-il. De ce qui est dit ici ce soir, un mot répété par vous aux oreilles de monsieur de Chavès pourrait non seulement faire manquer l'affaire, mais encore mettre en péril toute la frérie. En conséquence, on pourrait présentement vous ficeler comme un paquet et vous placer par précaution en lieu sûr. Ce serait peut-être de la prudence. Je jure, voulut interrompre Guilloja, taisez-vous. Je n'attache pas plus de prix que vous à vos serments. Ce qui m'arrête, c'est que, d'un autre côté, le duc, habitué à vous voir tous les jours, pourrait concevoir des soupçons ou des craintes si vous disparaissiez ainsi subitement. Il y a une chose en laquelle je crois, c'est l'amour déréglé que vous avez pour votre peau. Cela vous sauve. » Il y eut un sourire sur toutes les lèvres. Guilloja était livide. « Vous êtes poltron, » continua froidement Saladin. « C'est là une garantie certaine et dont je me contente, en prenant soin de vous dire, il vous est enjoint par le conseil de laisser Mademoiselle Saphir en repos, et je vous tuerai comme un chien si votre commerce nous barre la route. » Il y eut un silence. Le conseil approuvait évidemment, et le bon Geoffrey exprima l'opinion générale en disant à ses deux voisins, « Il a la sagesse précoce de Salomon, ce cher enfant. » Comérol hocha la tête et murmura, « Vaya Dieu, il met de l'animation dans nos séances. »« Ah, oh, c'est Dieu qui l'a envoyé, » s'écria le prince, « pour régénérer une grande institution. » « Un point final, » dit Saladin, « Guilloja est réglé, n'en parlons plus. Docteur Samuel, je vais vous adresser une question scientifique. Connaissez-vous les envies ?»« Il y en a de différentes sortes en médecine, » commença le praticien. « Fort bien, » interrompit Saladin, « vous connaissez les envies. Je suppose en effet qu'il y en a plus d'une sorte, car j'en ai vu, moi, de toutes les couleurs. La question scientifique est celle-ci. Pensez-vous qu'il soit possible d'imiter une envie sur le corps d'une personne saine? Je m'explique. Vous voudriez, par exemple, reproduire sur le sein d'une jeune femme un de ces signes qui sont les plus habituels à cause de la gourmandise des filles d'Ève, une moitié de pêche, une prune de Reine-Claude, une grappe de groseille. Le pourriez-vous? Très certainement, répondit Samuel. Nous avons des caustiques et des réactifs. Parfait. Et la légère différence de plan qui existe à la surface de ces envies. Dit le docteur en souriant, vous êtes décidément un observateur. C'est peut-être plus difficile, mais néanmoins je puis affirmer que le moyen de produire cette légère tumescence sans nuire à la santé n'est pas introuvable. Et savez-vous un peu dessiner, docteur? Demanda encore Saladin. Je crois deviner, voulut dire le docteur. Devinez tant que vous voudrez, interrompit Saladin, je n'ai pas l'intention de vous parler en parabole, mais répondez. Eh bien, oui, fit le docteur, s'il s'agit d'un fruit, je le dessinerai, je le peindrai, même ayant cherché autrefois dans les arts une distraction et un délassement. Saladin se leva. « Messieurs, dit-il, je suis tout particulièrement satisfait d'avoir noué avec vous des relations qui ne peuvent manquer d'être fructueuses pour vous et pour moi. La séance est levée, à moins que vous n'ayez quelques communications à me faire. »« Mais, dit Comérol, nous n'avons arrêté aucune mesure. » En effet, soupira Geoffrey, notre jeune maître nous laisse dans un crépuscule un peu inquiétant. » Saladin leur tendit la main à tous les deux. « Nous ne nous séparons pas pour longtemps, mes très chers, » répondit-il. « Dormez bien seulement cette nuit, car je ne répondrai pas de votre sommeil pour la nuit qui viendra. »« Il fera jour ?» demanda le prince. « Vous ne sauriez croire, » répondit Saladin, « comme ces vieilles formules restent d'un temps qui était l'enfance de l'art, me semble puéril. Mais enfin, ne changeons rien, il est des traditions qui sont respectables. » je vous laisse. Chacun de vous entendra parler de moi demain avant midi. Si, dans vos sagesses, vous trouviez qu'il est bon d'attacher le Guilloja ici présent par la patte, je vous laisse carte blanche. Docteur, préparez vos caustiques, vos réactifs et toute votre boîte à couleurs. Demain, à la première heure, je serai chez vous. À propos de cela, s'interrompit-il, voulez-vous bien me donner votre adresse ?
Le docteur Samuel lui tendit sa carte. « Je me rendrai chez vous, poursuivit Saladin, avec une charmante jeune personne très douillette, je vous en préviens, et qu'il ne faudra pas faire crier, à laquelle vous aurez la bonté, remplaçant en ceci la Providence, d'appliquer sur le sein droit une cerise de l'espèce dite bigarot, qui lui vient d'une envie de sa mère. » Il salua à la ronde et prit la porte. Un grand silence régna après sa sortie dans le petit salon qui servait de sanctuaire aux membres du club des bonnets de soie noire. Le docteur tournait ses pouces, Geoffrey buvait son punch à petites gorgées, et Commérol allumait une forte pipe qu'il avait gardée jusqu'alors dans sa poche, peut-être par respect. Ce fut le fils de Louis XVII qui rompit le silence. « Il paraît, dit-il, que nous allons être menés grand train. » « Oh, fit Commérol. Il a de l'acquis pour son âge, dit le bon Geoffrey. Mais si l'ami Guillaujat n'était pas une poule mouillée de qualité supérieure, l'affaire du flambeau n'était pas forte. J'attendais un regard pour frapper, dit l'Italien d'un air sombre. La force du petit, fit observer Samuel, est évidemment dans le mépris qu'il a pour nous. Je ne déteste pas cette façon de raisonner, et en définitive, nous avions besoin d'un homme. « Est-ce un homme ?» demanda Guillaujat. « Ma foi, répondit le docteur, je n'en sais rien, mais je sais que ce n'est pas tout à fait un ignoble poltron comme toi, ami Guillaujat. « Qui vivra verra, gronda celui-ci. Commérol et Geoffrey le regardèrent en même temps. « Moi, dit Commérol, je suis content que Guillaujat n'ait pas frappé. « Moi de même, fit le bon Geoffrey. Samuel ajouta, sans être décrépit, nous ne sommes plus de la première jeunesse. Il n'est pas mauvais d'avoir un gaillard qui se met en avant. » Aucun d'eux, évidemment, ne disait ce qu'il avait sur le cœur. « Voici 25 ans, reprit Geoffrey en frappant doucement sur l'épaule de Commérol, quand tu prononças ton discours à propos du portefeuille de l'homme assassiné là-bas, au cabaret de la Tour de Nesle, derrière la chaumière, tu avais un bagout dans ce genre-là, sais-tu ? » « Un peu plus élégant, je suppose, répliqua l'ancien clerc de notaire, et je remuais des idées qui auraient de la peine à entrer dans la cervelle étroite de cet arlequin-là. « Il faut dire pourtant, continua Geoffrey, qu'il y eut là deux personnes pour te river ton clou, Toulonnet l'Amitié et Marguerite de Bourgogne. « On avait 6 pieds de plus en ce temps-là, s'écria Commérol, l'œil brillant et le sang aux joues. « Ce qui n'empêche pas, poursuivit paisiblement Geoffrey, qu'il s'agissait alors de 20 misérables billets de 1000 francs, qu'aujourd'hui nous parlons de millions. Messieurs, mes chers amis, nous étions jeunes, ardents, nous avions toutes les illusions, tous les espoirs, tous les désirs. Avec 20 000 francs, on peut commencer une fortune à cet âge. À l'âge que nous avons, il faut, la fortune faite, beaucoup d'argent et peu d'ouvrage. Ce jeune coquin est venu vers nous juste à son temps. Il coûte cher, fit observer Commérol. C'est en ceci, répondit Geoffrey, que nous pourrons avoir recours contre lui dans la question du partage. Il a eu raison de nous dire qu'il était le maître de la situation au point de vue du travail à faire, mais l'opération faite, les rôles changent. Le bas peuple de notre confrérie ne connaît que nous. J'y songeais, fit l'ancien clerc de notaire. Moi de même, appuya le docteur Samuel. Nous sommes vieux, mais... Il se prit à rire, et les autres l'imitèrent. Pas si décrépit, ajouta le bon Geoffrey, qui humait la dernière goutte de son punch. Ainsi était attaqué le véritable état de la question. Ma parole, dit le prince, vous êtes encore plus futé que lui. « Et puis, reprit Geoffrey, je suppose qu'après le coup, nous ayons ce qu'il faut de foin dans nos bottes. Eh bien, il nous importe assez peu vraiment que le père à tous de cette vieillerie, l'association des habits noirs, à laquelle nous n'appartiendrons plus, à laquelle nous n'avons jamais appartenu, intercala le docteur Samuel. C'est juste. Que le père à tous, disais-je, s'appelle Hannibal Guillaujat ou monsieur le marquis de Rosenthal. Voici 10 heures qui sonnent à Saint-Jacques-du-Haut-Pas, mes petits, je vais aller me mettre au lit. » Il planta son chapeau à large bord sur son bonnet de soie noire et se dirigea vers la porte en s'appuyant sur sa canne.
Avant de passer le seuil, il se tourna vers l'Italien et lui dit, sans rien perdre de sa douceur ordinaire, « Toi, mon fils, si tu m'en crois, marche droit. » La lourde main de Commérol touchait en ce moment l'épaule de Guilloja. « Vaiadiou, » dit-il en le regardant fixement, « marche droit, mon bonhomme. S'il arrivait quelque chose au petit d'ici demain soir, tu serais haché menu comme chair à pâté. » Il sortit. Samuel l'imita et ne dit rien, mais son regard parla pour lui. Vint enfin le fils de Louis XVII qui donna une poignée de main à l'Italien en lui disant « Il paraît que ta peau ne vaudrait pas deux sous si tu bougeais, ma vieille. Nous avons enfin un homme. » Hannibal Guilloja, resté seul, se laissa choir sur le divan et mit sa tête entre ses mains. « Il y a une affaire pourtant, murmura-t-il, et ils n'iront pas me chercher jusqu'en Italie. » À cette même heure, on eut rencontré Similor et son fils Saladin, marchant bras dessus, bras dessous, dans les rues désertes qui sont au-delà du Luxembourg. Saladin avait rejoint son honoré père en quittant le café Massenet et avait bien voulu le féliciter sur la façon précise et adroite dont Similor venait de jouer son bout de rôle. Il causait. Monsieur le marquis de Rosenthal était ce soir d'une humeur expansive. « Vois-tu, papa, dit-il en arrivant au bout de la rue de l'Ouest, je ne ferai qu'une seule affaire avec ces momies. Le vol n'est pas ma vocation. Ça peut servir de point de départ à un honnête homme, mais en somme, il n'y a que le commerce. Tout est arrangé dans ma tête. 3 000 livres de rente suffisent à ton bonheur, pas vrai ?»« Mais, voulut dire Similor, faisons ton compte, interrompit Saladin. Avec 600 francs de loyer, tu as un petit paradis. 1 200 francs pour ta nourriture, 400 francs pour ta toilette, il te reste 600 francs pour l'argent de poche et la blanchisseuse. Si tu veux, tu feras des économies. Quand toi, tu auras 1,5 million, s'écria Similor indigné. Moi, papa, c'est différent, répondit monsieur le marquis, sans s'animer le moins du monde. Je pourrais avoir les 2 autres millions, et le reste, si je voulais, rien qu'en jouant le rôle de gendre. Je serais là comme un coq en pâte. J'y ai songé. Ce qui m'arrête, c'est ma femme. Je suis né célibataire, vois-tu, on ne se fait pas. Et d'ailleurs, la situation ne peut pas se prolonger bien longtemps. Cette saphir nous jouera quelque méchant tour un de ces matins. Je ne parle pas du Guilloja, mon pied est sur sa tête, mais il y a Échalot et la Canada qui se remuent. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud et enlever l'histoire d'un coup. Dans 3 jours, tout doit être fini, et alors mademoiselle Saphir pourra montrer sa cerise, la seule vraie et authentique, je m'en bats l'œil. Hé, cocher ! Un fiacre qui passait s'arrêta. « Papa, dit Saladin, en enjambant le marchepied, rentre en te promenant ou monte sur le siège. J'ai à causer avec moi-même. » Il s'installa au fond de la voiture et referma la portière sur le nez de l'auteur de ses jours.